Zoé Sfez, vous consacrez votre dossier du jour à la crise qui touche la chaîne d'information iTélé depuis le 17 octobre dernier.
Oui, après 8 jours de grève des salariés d'iTélé, pardon pour ma voix, la direction de Canal+, qui jusqu'ici s'était montrée assez inflexible face aux revendications de ses troupes, semble fléchir une première fois. Elle a annoncé hier qu'elle suspendait, je cite, pour des raisons opérationnelles, l'émission de Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini. Vous ne connaissez pas Jean-Marc Morandini. Jusqu'à la fin de la grève. Donc suspension, pas annulation. Grève qui a commencé donc il y a une semaine. Je rappelle que depuis une semaine, il n'y avait que l'émission Morandini Live de l'animateur qui était diffusée à l'antenne. Et finalement, c'est l'arrivée à l'antenne de cette émission qui avait provoqué début de grève à la rédaction d'iTélé. Arrivée emblématique, selon les journalistes, du manque d'indépendance de la chaîne depuis sa reprise en main par Vincent Bolloré. Mais l'annonce de cette suspension ne suffit pas pour lever la grève, explique Guillaume Auda. Il est grand reporter à iTélé. Il est porte-parole du mouvement de grève. Il rappelle que les revendications sont plus larges et pourtant très claires.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est que sans délai soit nommé un directeur de la rédaction qui ne cumule pas ses fonctions avec celles de directeur général de la chaîne iTélé, comme c'est le cas actuellement, un directeur de la rédaction qui garantirait notre indépendance, qui serait formalisé par la signature immédiate d'une charte éthique qui nous protégerait des intérêts de nos actionnaires, protégerait les pressions extérieures, qu'elles soient économiques ou politiques. Et on demande également le retrait de l'antenne de Jean-Marc Morandini et non sa suspension provisoire dans le temps de la grève. On pense sincèrement qu'il est dans l'intérêt de personne de poursuivre ce mouvement, ni dans l'intérêt des salariés d'iTélé, journalistes et techniciens en grève, ni d'ailleurs dans l'intérêt de la direction. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces discussions soient réactivées. On veut maintenant des réponses claires à nos revendications qui sont claires. Pour le moment, la direction ne s'est pas positionnée clairement.
Le dialogue entre la direction et les salariés d'iTélé est en effet pour le moment toujours au point mort, Zoé Sfez.
Oui, alors c'est très difficile de traiter de ce sujet puisque évidemment la direction de Canal refuse toujours de s'exprimer dans ce dossier comme dans tous ceux qui sont les siens depuis l'arrivée de Vincent Bolloré. Mais on sait en tout cas que les salariés appellent à la nomination d'un médiateur par le ministère de la Culture pour débloquer la situation. Malgré une convocation du CSA, une déclaration du ministre de la Culture, la direction de Canal+, en tout cas, n'a pas repris le dialogue depuis vendredi. Tout ce qu'on sait, c'est que les tensions se cristallisent évidemment autour de la figure de Morandini, mais aussi autour de celle de Martin Nedjar, le fameux directeur de la rédaction qui a lâché lors d'une des premières AG qu'il n'aimait pas, certains des journalistes. Elle se tend de plus en plus. Olivier Ravanello, chroniqueur international très emblématique de la chaîne, a annoncé son départ ce week-end. Un autre élément a encore tendu tout ça ce week-end, c'était le déménagement d'une partie des locaux de la chaîne pour accueillir la rédaction Direct Matin, propriété aussi de Vincent Bolloré. Ce, en pleine grève, raconte Guillaume Audin.
C'est un déménagement qu'on peut qualifier de rocambolesque, hein, dans la mesure où certains des effets personnels de journalistes se sont retrouvés dans des poubelles, des photos, des notes de frais, des carnets de notes, des chargeurs. Moi, j'ai vu certains de mes collègues craquer, certains pleurer, d'autres récupérer comme ils le pouvaient leurs effets personnels à l'intérieur de cette poubelle. Les membres de la direction étaient sur place. Ils nous ont dit précipitation, ils nous ont dit maladresse, mais bon, nous, on a quand même vu poubelle. Moi, je fais le procès d'intention à personne. Mais encore une fois, dans les faits, ce qui s'est déroulé ne contribue pas à apaiser un climat qui, de toute façon, est foncièrement tendu et qui, au moment où je vous parle, le reste.
Et les salariés d'iTélé appellent aujourd'hui à un rassemblement à 13h devant les locaux de la chaîne.
Rassemblement public, comme ils en avaient organisé déjà la semaine dernière. Ils reçoivent de plus en plus de soutien avec le hashtag Je soutiens iTélé sur les réseaux sociaux, à la fois de la part de la profession aussi, mais de nombreux politiques. Benoît Hamon et Roselyne Bachelot étaient présents la semaine dernière. Pour Guillaume Auda, la crise finalement que traverse iTélé dépasse très largement le destin de ces seuls salariés.
On a vraiment le sentiment en fait qu'on combat pour quelque chose qui dépasse notre petite chapelle, celle d'iTélé. On ne combat pas uniquement pour l'avenir d'une petite chaîne d'information en continu, mais plus largement pour une profession qui s'exerce de plus en plus difficilement dans un contexte de surconcentration des médias aux mains d'industriels. Nous, quand on réclame à corps et à cri indépendance, c'est justement pour que soit garantie à l'égard des actionnaires la possibilité d'exercer ce métier de journaliste au nom de principes qui sont simples, déontologie, éthique, crédibilité. De ce point de vue-là, on a l'impression qu'on combat pour quelque chose qui nous dépasse. Et est-ce qu'il est possible de mettre une rédaction ou pas, de lui intimer de travailler sur tel ou tel sujet sans que son indépendance soit garantie, c'est effectivement le bras de fer dans lequel on est entraîné.
Voilà, alors effectivement, à 11h30, les salariés d'ITélé voteront pour savoir s'ils reconduisent ou non la grève pour une journée supplémentaire.
Les brèves, Zoé.
On ouvre avec l'annonce surprise par François Hollande hier d'un projet très très attendu, la création à Paris d'une cité du théâtre dans les ateliers Berthier, situés dans le 17e arrondissement de Paris. La Comédie Française, le théâtre de l'Odéon, disposeront chacun d'une salle, dont l'une modulable, et le Conservatoire National d'Art Dramatique va y emménager. Ils vont occuper tous les 20 000 mètres carrés du site, qui accueillait jusqu'ici seule une petite salle du théâtre de l'Odéon, mais surtout les ateliers décors de l'Opéra de Paris. Le projet de réaménagement estimé à 150 millions d'euros doit voir le jour en 2022. On y reviendra jeudi dans le Journal de la Culture.
Le Musée national d'histoire américaine de Washington a récolté 300 000 euros pour restaurer les chaussures du magicien d'Oz.
Ils ont été levés seulement en une semaine, c'est du jamais vu. Il s'agit donc de restaurer les chaussures rouges portées par Judy Garland. Le film date de 1939, ces chaussures étaient vieilles de 80 ans. Les dons ont afflué de 41 pays.
La grande salle de la Philharmonie sera bientôt rebaptisée salle Pierre Boulez.
Et oui, la salle ouverte en janvier 2015 doit être baptisée ce mercredi par Audrey Azoulay, donc Pierre Boulez, compositeur, figure cruciale de la musique contemporaine, mais aussi père spirituel du projet. C'était lui qui avait voulu dans les années 70 la création d'une cité de la musique et d'une philharmonie. Je rappelle qu'il est mort le 5 janvier 2016 à 90 ans, un an après l'ouverture de son projet.